Bonjour, bonsoir. On m'entend?
Oui, on t'entend très bien.
Ok, d'accord, c'est moi qui m'entends pas bien. Youhou!
Monte ton son.
Bonjour, bonsoir. Vous êtes à Voix de Fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Je suis Nicolas en compagnie de...
Farouko avec sa petite grippe.
De Farouko. Et cette semaine, on va vous faire une émission quand même relativement chargée, bien qu'on soit une équipe légère.
légère n'étant pas le fusil.
Oui, non, évidemment, à deux, on fait probablement la moitié du poids du collectif.
Ouais, mais on ça, est bon, assez poids lourd.
C'est ça. On va avoir une entrevue avec Pierre Gaudreau, le coordonnateur du RAPSIM, le réseau d'aide aux personnes seules itinérantes de Montréal, et aussi, incidemment, le porte-parole national de la Nuit des Sans-Abris. Et en fait, on va parler de la Nuit des Sans-Abris qui va avoir lieu vendredi, le 16 octobre, dans 23 villes un peu partout, dont Québec.
D'habitude, donc, c'est pas fin octobre.
Ben non, c'est pas mal tout le temps, cette date-là.
C'est pour ça que je passe tout le temps, donc.
16, 17, autour de ça, c'est... deuxième ou troisième vendredi d'octobre. En tout cas, je sais pas trop là, c'est comment ils font pour choisir la date, là, mais c'est toujours assez à ce moment-ci. Et donc c'est ça. C'est la 20e édition cette année. Et ça va être sur le thème « Pour que l'année 2009 soit celle d'une politique en itinérance ». Donc bref, on va s'entretenir avec Pierre Gaudreau de ça. Et sinon, on a plusieurs nouvelles. Évidemment, encore toujours retour sur... la campagne électorale municipale.
Ouais, on n'y
échappe, échappe pas. Et sinon, quelques annonces. On va faire aussi... On va avoir le temps d'ouvrir quelques journaux qui sont sortis récemment et des nouvelles syndicales si on a le temps. Donc voilà, c'est ce qu'on vous a concocté pour cette édition de Voix de Fait. Mais en attendant, je pense qu'il y a une pièce...
Oui, j'ai déterré des boulamites, une pièce reggae sur Cachistley.
Ouais, ça, c'est Mohamed Ali, c'est
oui,
ça?
Oui, très connu sous le nom de Mohamed Ali. Dans ces temps de guerre actuels, je me suis dit, tiens, sortons donc la pièce qui parle de notre Mohamed Ali qui a failli faire de la tôle malgré son shit de son titre, pardon, de champion mondial de boxe en disant, traduction en français, libre, j'ai jamais entendu un Vietnamien me traiter de nègre. C'est ce que M. Ali avait dit. Comme ultime défense pour refuser sa participation à la guerre au Vietnam.
Non, je pense que j'ai jamais entendu de Viet Cong me traiter de nègre.
En plus, c'est encore plus précis. Ouais, bref, il a été en cours, il a été condamné à 2 ou 5 ans de prison, en tout cas plusieurs milliers de dollars, mais il a jamais rien fait de ça, il s'est battu. Fait qu'on va l'écouter ce soir ou cet après-midi. Coming from the top of the mountain, the man called Cassius Clay is back again, you know. Bobbing and weaving and moving away. The man called Cassius Clay is the other of the day. So if you want to see some good exhibition, you got to see the man called Cassius Clay in action. Wawa ji wawa, ji wawa ji wo. Tell you, wawa ji wawa, ji wawa ji wo. Showing punches that is effective. The brother is fighting constructive. Saying wawa ji wawa, ji wawa ji wo. Ha! Do your thing and let me see you swing. Brother, come on down and do your thing. Move away, Joe Fraser. Ha! Four man on the top. But when Cassius Clay come, he'll drop. So wawa ji wawa, ji wawa ji wo. Ha! Do your thing and do your thing. So brother, come and down and sing. Do your thing, y'all. Great sound that leads away. The brother called Cassius Clay, the order of the day. So the wawa ji wawa, ji wawa ji wo. And the wawa ji wawa, ji wawa ji wo. With a left and a right, and a right and a left. And this gonna be ha! Say the fight of the night, y'all. Say the wawa ji wo. Ha! Do it to me. Wah! Baby! Cassius Clay say, brother is the order of the day. I'm the greatest, you know. Ha! I say ji wawa ji wawa. Wow! Ji wawa ji wo. I make a move, brother, move. So make a move, sister, move. Move and groove, move and groove. Cassius Clay in the ring. His brother is doing his own. Jiwawa, jiwu.
I do your thing, do your thing. Ha, do it, yeah. I'm the greatest heavyweight champion of the world. Cassius Clay is coming back to retain his title. So move away, Judge Foreman, move away. When the man Cassius Clay come your way, ha, I've been weeping, you know. Say, Jiwawa, 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 Jiwawa. I do your thing, do your thing. I let me see you swing, wow! But with the right and the left, and it a left and a right, wow! This gonna be a lot of fight of the night. Cassius Clay and Judge Foreman, you know. Wow! Move it up, and I tell you, I say Jiwawa Jiwo, doobie doo doobie doo, a doobie doo bee bee doo, wow! Doobie doo doobie doo, I say Jiwawa Jiwo. Diddy woo, diddy woo. Make a move, oh man, make a move. When Cassius Clay come with a sudden attack, there's gonna be a shock attack.
Enchaîner avec Facoli un petit instant, le temps que le téléphone arrête de nous niaiser pour notre entrevue, ça sera pas très long.
Quand on America, il est arrivé en Cubans avec un drapeau, moi c'est dur, il ne colle jamais.
Alors voilà, de retour à Voix de Fait pour une entrevue avec Pierre Gaudreau, qui est porte-parole nationale pour la Nuit des sans-abri. C'est bien ça?
Oui. Bonsoir.
Bonsoir. Donc, on se dirige, comme je l'indiquais en début d'émission, vers la 20e édition de la Nuit des sans-abri. Un événement qui est né en 89. C'est le 16 octobre, en fait, que ça va se passer dans 23 villes au Québec, c'est ça?
Oui, et j'oserais dire, c'est pas juste une image, malheureusement. L'événement est né il y a une vingtaine d'années à Montréal. Une auberge du cœur, une maison d'hébergement jeunesse, avait décidé de faire une activité de sensibilisation du grand public en faisant un bras zéro sur la rue Sainte-Catherine à côté de Musique Plus pour attirer l'attention des passants. Et ça a été un bon succès et ça s'est développé. À chaque année, des villes se sont ajoutées volontairement pour justement faire en sorte de faire reconnaître que le problème existe, solidariser le monde, faire connaître le travail qui est fait, les besoins, puis interpeller surtout les autorités sur cette question-là. Donc, on est passé d'une ville où c'est sûr que le problème est reconnu comme étant important à Montréal depuis longtemps, à plusieurs autres villes, à Québec, ça fait une dizaine d'années, si je ne m'abuse, et maintenant on est rendu à 23 villes, incluant des villes où on ne penserait pas itinérance, comme Laval ou Vaudreuil dans la région de Montréal, ou Saint-Georges de Beauce, et de nombreuses autres.
Mais c'est sûr qu'à 23 villes, on sort des grands centres, là.
On sort des grands centres, définitivement. Et c'est malheureusement, comme je disais, le cas, le problème est là, mais ça démontre aussi l'importance d'agir à grandeur du Québec pour répondre aux besoins, qu'il y ait des ressources d'hébergement, des centres de jour, des services qui soient offerts pour les gens qui se retrouvent exclus, marginalisés, réprimés, puis qui ont besoin d'un soutien, d'aide, de logement, d'un revenu, et pas juste à Montréal.
Ben, dis-moi, bon, tu dis que c'est parti avec une auberge du cœur dans la région montréalaise. C'est encore beaucoup les auberges du cœur. Le phénomène est reconnu. Il y a de plus en plus de villes qui participent pour dénoncer le phénomène de l'itinérance. Qu'est-ce qui a changé depuis 1989?
Je serais porté de souligner, parce que malheureusement, la réponse est facile et réelle, c'est que le problème a augmenté. On a même eu droit à une commission parlementaire sur l'itinérance dans la dernière année. Depuis une dizaine d'années, on a le droit à un programme fédéral pour soutenir l'action des groupes en itinérance. Et malgré tout ça, le problème augmente. Mais il y a des gens qui s'en sortent. Ce qui est un slogan là, que j'emprunte aux auberges-cœurs, justement, mais au-delà des jeunes, il y a des hommes et des femmes qui se retrouvent en situation d'itinérance, puis grâce d'abord à elles-mêmes, à eux-mêmes, aux capacités qu'ils ont de se battre, ils peuvent réussir à sortir de la rue quand on les aide en leur donnant une possibilité d'avoir un logement social, quand on les aide dans leur donnant les services adéquats qu'ils peuvent avoir besoin, que ce soit au niveau de dépendance, de problèmes de santé mentale ou de problèmes de santé physique tout court. Donc, si on soutient les gens, il y a un grand nombre de gens qui s'en sortent. Malheureusement, c'était largement dénoncé, démontré depuis de nombreuses années, puis particulièrement dans la dernière année avec la Commission parlementaire sur l'itinérance, il y a davantage de gens qui se retrouvent en situation de risque d'itinérance à cause des politiques gouvernementales, à cause de l'absence, évidemment, de logement, à cause de l'absence d'un revenu décent qui permette de se payer un loyer, à cause des politiques qui existent au niveau de la santé mentale, où on assiste malheureusement encore à trop de remises à la rue, de désinstitutionnalisation, sans que l'offre de logement et de services soit là, à cause des faiblesses, et là, je dis pas que c'est pas intéressant ce qui se fait, mais les centres jeunesse qui préparent les jeunes à sortir des centres ont pas tous les moyens, toutes les ressources pour les accompagner vers la vie réelle, un coup qu'ils sont sortis des centres. Entre autres, évidemment, il n'y a pas un offre de logement qui est nécessaire. Donc, il y a toutes sortes de besoins qui ont été identifiés qui font en sorte que, malheureusement, il s'ajoute année après année des villes qui lèvent la main et qui disent « Ben, moi aussi, de l'itinérance à Gatineau, à Vaudreuil, à Joliette, à Saguenay, etc. Et, » et qui veulent attirer l'attention sur quelque chose qui fait très peu parler de lui à longueur d'année, parce que à Montréal, on parle d'itinérance. À Québec, on en parle quand même aussi, à Gatineau, avec des familles sans logis. Mais ailleurs, au Québec, c'est quelque chose qui est peu reconnu. Et pourtant, à Chicoutimi, ça fait plus d'une vingtaine d'années que la maison des sans-abri existe et accueille des centaines d'hommes à chaque année.
Donc, on se retrouve dans une situation où, bon, la nuit des sans-abri, c'était pour sensibiliser au phénomène. Le phénomène en tant que tel, c'est comme un... Si je te comprends bien, on a un mouvement double. D'un côté, une aggravation des conditions, le phénomène prend de l'ampleur, les problèmes prennent de l'ampleur, et de l'autre côté, il y a un développement aussi des organismes pour faire face à ça, de certains programmes gouvernementaux. Si je me trompe pas, cette année, le thème, c'est pour que l'année 2009 soit celle d'une politique en itinérance. Donc, ce serait votre réponse globale à la question.
Oui. C'est la réponse qu'on demande depuis maintenant plus de 3 ans avec le réseau Solidarité Itinérance Québec, qui regroupe 250 organismes, refuges, ressources d'hébergement, centres de jour, groupes qui font du travail dans la rue, dans le milieu, plus d'une vingtaine à Québec qui sont membres de ce réseau-là, 80 quelques à Montréal et 200 quelques ailleurs. On demande au gouvernement du Québec d'avoir une vision globale du problème, de faire de l'itinérance une priorité au niveau de l'action gouvernementale et de dire à tous les ministères concernés, que ce soit l'emploi, la solidarité, la sécurité publique, la justice, l'habitation, les affaires municipales, de dire qu'il faut qu'on arrête de produire l'itinérance, il faut qu'on arrête d'avoir une action qui n'est pas concertée. Je donne un exemple, il se fait au niveau de la Société d'habitation du Québec un peu passer de logements sociaux, incluant des logements sociaux pour des personnes qui ont connu l'itinérance. Mais en même temps, on produit l'itinérance au niveau du gouvernement avec l'absence dans l'action des centres jeunesse, avec l'absence d'action du milieu carcéral quand il y a une remise à la rue. Donc, il y a une absence de vision et de préoccupation de la question.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe de l'itinérance au niveau gouvernemental, ou c'est un peu tout le monde qui se passe la balle?
C'est justement ce qu'on demande avec une politique globale, c'est qu'il y ait un ministre qui soit désigné. Et ça a été fortement exprimé dans le cadre de la commission parlementaire depuis un an. Le rapport a été adopté la semaine dernière. Malheureusement, il n'est pas rendu public encore. L'Assemblée nationale est en congé cette semaine. La semaine prochaine ou la semaine suivante devrait l'être. Et une des choses qu'on attend, c'est effectivement qu'il y ait un interlocuteur qui soit désigné. Actuellement, c'est la ministre déléguée aux services sociaux, Lise Thériault, qui est responsable du dossier. Et nous, ce qu'on a dit dans le débat, l'important, c'est pas que ce soit Issam Hamad ou Lise Thériault. L'important, c'est qu'est-ce qui va être le mandat et les moyens qui vont être donnés à la ministre ou au ministre et les moyens qui vont être là pour appuyer une politique pour réduire l'itinérance et surtout la prévenir. Et on pense que c'est possible. C'est sûr qu'on vit dans une société avec l'inégalité des richesses où l'exclusion croissante d'un certain nombre de populations, l'itinérance va toujours exister. Mais là, on assiste à des politiques, autant des grandes politiques économiques qu'aussi des politiques plus fines au niveau de la santé mentale, au niveau des centres jeunesse qui produisent l'itinérance, sans parler des politiques qui empire la situation des gens qui se retrouvent dans la rue avec la judiciarisation, l'émission de contravention qui se résulte en une incarcération au bout de ligne, quelque chose qui se vit à Montréal, mais aussi à Québec et dans de nombreuses autres villes. Nous, on l'a documenté beaucoup.
C'est la politique de la tolérance zéro.
La commission de l'intolérance zéro, que nous on dit, et la commission de la personne parle de profilage social dans le mémoire qu'elle a déposé en commission parlementaire. Fait que, oui, ce qu'on demande cette année, c'est que avec la nuit des sans-abri dans les 23 villes, c'est que le gouvernement se donne une politique globale, et on a bien hâte de voir la sortie du rapport de la commission parlementaire. On a hâte de voir quelle va être la réponse du gouvernement. On s'attend pas à des miracles. On voit le contexte budgétaire dans lequel le gouvernement s'est lui-même placé en bonne partie, puis sur lequel il sert de prétexte à ne pas vouloir agir sur bien des questions. Mais avec la nuit qui est soulignée dans 23 villes, avec la mobilisation qu'il y a eu derrière la demande d'une politique en différence, la commission parlementaire qui s'est tenue l'an dernier, il y a un rapport de force qui est croissant pour amener le gouvernement à faire de quoi. Et ça, on en est content parce que les besoins sont immenses.
Pour la politique, pour revenir, en tout cas, terminer sur cette question-là, vous voulez que le gouvernement se donne une politique qui a une action cohérente. Vous axez aussi quand même sur un certain nombre de droits qui sont niés et qui vous semblent être essentiels dans une politique.
Oui, il y a six grands axes dans notre politique, et sans faire le tour du jardin. Le premier qu'on nomme, c'est le droit de cité.
C'est-à-dire?
Un droit qui a des millénaires comme demande, c'est-à-dire que tout le monde devrait avoir le droit d'être dans la ville. Or, les gens qui se retrouvent sans abri, évidemment, n'ont pas de toit, mais en plus de ne pas avoir de toit, souvent on les réprime, on passe des règlements pour les interdire d'être dans les parcs, d'être dans certains lieux. On développe des bains individuels pour pas que les gens s'y couchent. Donc, il y a une absence de reconnaissance de la citoyenneté des gens qui sont sans domicile fixe. Après ça, c'est la nécessité que les gens aient un droit de cité, que ça s'incarne dans d'autres droits sociaux majeurs, comme celui du droit au logement, le droit à un revenu. Évidemment, parce que l'itinérance, c'est pas juste un problème de revenu, c'est pas juste un problème de pauvreté, de revenu, pauvreté, de logement. C'est souvent d'autres problèmes qui sont associés, problèmes de santé mentale, problèmes de dépendance. Il y a un enjeu d'accès à des services, accessibles pour les gens qui se retrouvent dans la rue. C'est un problème pour tout le monde. On se compte pas d'histoire, avoir accès à des bons services de santé, des bons services sociaux. On a quand même un système qui a de l'allure, mais qui a beaucoup de problèmes. On rentrera pas là-dedans. Mais c'est pire quand on est dans la rue. Donc, il y a un problème, là, d'accès. Et il y a des besoins spécifiques. On pense notamment à des lieux d'injection supervisés, qui est un autre des demandes qui a été fortement exprimé dans le débat l'an dernier.
Il y a eu des forts reculs là-dessus récemment, non?
Oui, absolument. Et sur lequel, ce besoin-là, on a des bonnes attentes de la part des députés au niveau du rapport qu'ils ont adopté au niveau de la commission parlementaire, que les gens puissent avoir accès à des lieux sécurisés, où il y a un soutien qui est fait, où non pas les gens se retrouvent dans la rue dans des conditions dangereuses. Donc, c'est des grands droits qu'on exprime dans cette politique-là. Un des derniers, qui n'est pas un droit, mais qui est souligné un besoin qui est énorme, c'est la reconnaissance du réseau de solidarité qui s'est constitué, qui est parti beaucoup des communautés religieuses et qui sont encore présentes, mais beaucoup moins parce qu'ils sont plus capables de le faire et que le problème augmente.
On parle des groupes comme l'Aube-Rivière, là?
Oui, comme l'Aube-Rivière à Québec, la Maison du Père à Montréal et d'autres ailleurs où les communautés ont joué un grand rôle. Le Chaînon à Montréal, qui est une institution pour les femmes en difficulté. Et ça, c'est un réseau-là qui a besoin d'être appuyé. D'être appuyé dans des solutions qu'il met en place, comme le logement social, par exemple, avec le soutien communautaire, c'est-à-dire d'offrir un accompagnement pour les gens qui ont connu la rue dans leur réinsertion en logement. Et c'est une formule qui a beaucoup marché, je pense. Il y a des exemples à Québec aussi et dans différentes régions. Des investissements qui sont minimes à comparer tous les investissements répressifs, la judiciarisation, l'incarcération. Donc nous, ce qu'on dit, oui, il y a des choses qu'on demande, on s'en cache pas. Quand on parle de davantage de logements sociaux, d'un revenu décent, c'est des investissements de l'État. Mais quand on voit comment l'État canadien, québécois, américain ont soutenu les institutions financières, l'industrie automobile. On sait que l'argent peut exister. Donc oui, il y a des choses qu'on demande dans la politique en itinérance qui sont des investissements, mais il y a des choses qu'on demande qui sont des réinvestissements, qu'on agisse autrement pour soutenir les gens et non pas les pénaliser pour éviter que davantage de gens se retrouvent dans la rue parce que l'immense majorité, des dizaines de milliers de personnes qui, à un moment donné ou à un autre, se retrouvent dans la rue à Montréal, à Québec, mais aussi à Saint-Georges-de-Beauce, à Joliette, à Saguenay, à Gatineau, à Sherbrooke, à Drummond, ne se retrouvent pas là par choix, se retrouvent là condamnés à y être parce qu'ils sont abandonnés. Abandonnés d'abord avant tout par la société, évidemment aussi souvent abandonnés par leur famille ou en rupture avec leur famille puis en rupture avec leur milieu à cause des difficultés qu'ils vivent, qui sont réelles, mais des difficultés sur lesquelles on peut agir pour faire en sorte que ces gens-là puissent au moins avoir un toit, des droits à la santé et ne pas maganer leur vie puis mourir à 30, 40, 50 ans.
Tu parlais d'investissement. Bon, la nuit des sans-abri, c'est toute une perspective de sensibilisation puis de mettre de l'avant l'idée de la politique globale. Mais vous mettez aussi de l'avant depuis un certain nombre d'années et encore récemment des revendications là, très concrètes et spécifiques. Où vous en êtes à ce niveau-là?
Ben, il y a des demandes qu'on a portées beaucoup au niveau du logement, au niveau de l'accès à un chèque, et il y a eu des gains importants qui ont été faits. Il y a des demandes qui sont des demandes plus globales, par exemple au niveau de la lutte à la pauvreté d'un barème plancher pour couvrir les besoins essentiels. On sait que le gouvernement québécois est en train de faire une consultation très orientée sur son plan de lutte à la pauvreté. Nous, ce qu'on dit, puis pas dans le cadre de la consultation, mais en général, c'est que il y a moyen d'agir pour assurer un revenu décent en répartissant la richesse, en reconnaissant que tout le monde a des besoins, que tout le monde a des droits aussi. Fait que là-dessus, c'est un des éléments sur lesquels on peut avancer. Et le gouvernement se targue, puis il y a des éléments dans lesquels il a raison. Il y a eu un certain progrès pour les familles au niveau de la lutte à la pauvreté, avec différents programmes, garderies, allocations familiales et autres. Les gens sont encore pauvres, le sont moins. Les personnes qui le sont vraiment demeurées et qui se sont... et dont l'appauvrissement s'est même développé, c'est les personnes seules et dont qui sont en très grand nombre, puis dont justement une partie d'entre elles se retrouvent condamnées à la rue, à vivre en chambre, à vivre avec un taux d'effort où 75-80% du revenu va au loyer, puis quand ça se combine à d'autres problèmes sociaux, d'autres problèmes personnels, les gens sont plus capables, puis à un moment donné, oui, ils se ramassent à Lombrivière, ils se ramassent à la maison du père, ils se ramassent dans la rue, accrochés chez des chums, mais ils sont, par définition, sans domicile. Donc, il y a des éléments sur lesquels la nuit des sans-abri porte des revendications sur lesquelles on n'a pas beaucoup avancé. Il y en a d'autres, le développement de logements, où il y a eu des avancées. Un dernier que je pourrais nommer, c'est au niveau de l'accès à des espaces publics, au niveau de la judiciarisation, le problème est encore là, mais au moins il commence à être reconnu. Quand le barreau du Québec, qui n'est pas un groupe de pression ni un groupe de gauche, dit qu'on a raison à Montréal de demander une amnistie pour les gens qui sont aux prises avec un problème de judiciarisation parce qu'ils ont reçu des contraventions tout simplement parce qu'ils étaient dans l'espace public, parce qu'ils dormaient, parce qu'ils consommaient, parce qu'ils faisaient leurs besoins, parce qu'ils étaient dans les parcs passés minuit, doivent voir leur contravention annulée parce que ça n'a pas d'allure que comme société on condamne ces gens-là. Quand le barreau nous soutient là-dedans, on se dit qu'il y a une avancée dans la reconnaissance du problème.
Le barreau, ça, c'est l'Association professionnelle des avocats, c'est ça? C'est la corporation?
L'Association corporative des avocats. Okay. Quand le barreau reconnaît qu'on a raison de soulever ce problème-là, puis que l'amnistie est une avenue à regarder, on se dit que c'est intéressant. Quand la Commission des droits de la personne parle de profilage social, dans l'application des règlements à l'endroit des personnes itinérantes, on dit OK. Ce qu'on dit, il n'y a pas juste Dan Bigra qui le dit. En même temps, le maire Tremblay reçoit ça, il dort au gaz, puis il continue à appliquer ses règlements de la même façon, puis à nier le problème, puis juste à regarder les bons coups, les quelques bons coups qu'il a pu faire pour aider. Et c'est réel. Certains organismes qui aident des sans-abri, certains projets de logements sociaux, c'est pas inintéressant ce qu'il a fait, mais les maisons de chambre continuent à disparaître. C'est qu'au total, on perd des unités de logement dans le bilan comptable. C'est pas une vision qu'il faut avoir, le bilan comptable, mais quand on regarde le réel, il y a moins de logements accessibles aux gens à faible revenu. Et en plus, la ville, dans sa cour, applique des règlements qui pénalisent les gens. Fait qu'il y a quelques avancées, puis il ne s'agit pas d'être jovialiste, mais malheureusement, si on regarde les...
Elles sont compensées par des reculs.
Les sont plus que annulées par les reculs et par les problèmes qui s'approfondissent. De là, l'invitation qu'on fait à tout le monde de venir faire un tour à Nuit des sans-abri à Québec et ailleurs. On peut aller voir les activités, la programmation sur le site de la nuit, www.nuitdessansabri.ca, sur lequel on retrouve les lieux et les activités. Généralement, c'est de vendredi soir au vendredi après-midi jusqu'au samedi matin. Et les gens sont invités à venir y faire un tour, venir passer quelques heures ou venir y passer la nuit s'ils le veulent. Mais l'important, c'est de souligner son appui, d'y venir par curiosité aussi, de voir, de venir rencontrer des gens qui, évidemment, par certains cas, sont en situation d'itinérance, d'autres qui s'en sont sortis.
Justement, qu'est-ce qui se passe dans la nuit des sans-abri? C'est ouvert à tout le monde, puis...
C'est ouvert à tout le monde et
c'est une manifestation, c'est un rassemblement.
Il y a des performances artistiques de la part de gens qui sont solidaires, d'autres qui sont issus de la rue. Il y a des témoignages aussi, dépendant des endroits. Il y a des vidéos. Il y a aussi la nourriture qui est offerte aux personnes pour passer à travers une nuit qui s'annonce froide à la grandeur du Québec. Chaque année, la nuit à la mi-octobre est toujours frappée de la réalité dans laquelle les gens vivent. C'est-à-dire qu'il fait froid au Québec 6-8 mois par année. C'est pas drôle d'être dehors 12 mois par année, mais l'hiver, on peut-tu convenir qu'il devrait avoir d'autres solutions que d'être dehors, ou qu'on devrait offrir au moins aux gens d'autres solutions que d'être dehors?
Ben, c'est bon. Donc, c'est cette semaine, vendredi, le 16 octobre. À Québec, traditionnellement, ça a lieu à la place Saint-Roch. Je ne sais pas cette année si le REIC a réussi à obtenir l'espace, mais les gens peuvent téléphoner, selon le site web que tu as donné, au 522-6189. Et merci beaucoup, Pierre.
Merci, à la prochaine.
À la prochaine. Nous, on va s'en aller en musique avec...
Tikenja Fakoly nous a sauvés tantôt. Mais on va pas reprendre la même pièce, on va prendre l'Afrique doit du fric.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
Afrique esclavagisée, colonisée, matinisée, dévalisée.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les tyrans complices, les gars dans les comptes en Suisse. Les couvents de Sylvain, les crédits de débit. Aïe, aïe.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
Afrique m'a dirigé, tyrannisé, manipulé, dévalué.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
La somme des mercenaires et les armes des tortionnaires. Des milliards de francs volés à des pays souffrants. Les coups de fouet, doux fouet, les sales sous des sassous, ya ya ya.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
L'Afrique doit encore, après 400 ans d'esclavage, plusieurs années de travaux forcés, des milliers d'entreprises qui pillent.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
Les complots du FMI et les plaintes de la Banque mondiale, des milliards d'euros volés par des bandes d'escrocs, les fonds comptent de compte et les sales sous de sa soupe.
Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric.
Les montagnes d'Afrique volées par la France-Afrique. Les présidents africains sont complices de ce trafic. Les coups de fouet du fouet, les bombos des bongos, ya ya ya.
Ainsi dans l'Afrique, loi du fric. 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 Ainsi dans l'Afrique, loi du fric.
Est-ce que l'Afrique doit encore?
Non.
Est-ce que Africa doit encore?
Ainsi dans l'Afrique, loi du fric. 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 Ainsi dans l'Afrique, loi du fric.
Hey, rebonjour, vous êtes toujours sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec, vous écoutez Voix de fait, et on a de la visite rare tout d'un coup.
Salut Nicolas!
Non, c'est François qui nous fait nos tous nos superbes montages, montages qu'on n'a pas mis cette semaine, hein?
Et non, j'allais enchaîner avec ça justement, le plus c'est que je l'avais placé, écoutez ça, c'est bon.
Vous écoutez Voix de fait!
Sinon, mange toi aussi, vite dans l'assiette, sinon pas de dessert, en pénitence dans ta chambre.
J'aime pas ça ce qu'il y a dans mon assiette, tac.
C'est bon, c'est moi qui ai fait ça pour vous autres.
Je trouve que t'imites très bien Pruno.
Non, non, mais c'est les vrais de vrais. Mais faut, quand on pense que Tricot Machine a fait un album de reprises, de chansons, de passe-partout, et après ça, on entend ça.
Ah,
Canel et Pruno qui sont en train de se martyriser.
Aïe, 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 aïe.
Donc, voilà, nous sommes de retour et c'est le bloc élections municipales parce que au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il y a des élections municipales à Québec. Il y a des choses intéressantes qui se passent au niveau des groupes populaires. Peut-être avez-vous vu mardi matin, il y a des candidates de l'équipe La Bombe. En fait, les deux candidates de la Haute-Ville, celle de Montcalm-Vieux-Québec et celle du district des Faubourgs.
Ils ont fait de la récupération.
Oui, ils ont fait de la récupération. Ils se sont présentés devant le site de l'ancien patron Saint-Vincent-de-Paul, de l'ancienne église Saint-Vincent-de-Paul. Vous savez l'espèce de ruine gréco-romaine là, qu'il y a entre la Haute-Ville et la Basse-Ville sur le coin de
Dupré-Montmorency.
Un coin très convoité, et ils ont carrément suggéré d'exproprier M. Jacques Robitaille, le propriétaire du site, qui est aussi le joyeux personnage derrière les hôtels Jarreau.
On attend encore ses commentaires.
On attend encore ses commentaires.
On a une équipe de recherchistes là-dessus.
et voilà, c'est ça, ils ont proposé d'exproprier le monsieur pour mettre en place un projet d'habitation. Et moi, bon, évidemment, je milite, et dans une autre vie, je travaille dans un comité de citoyens qui est dans ce quartier-là, dans Saint-Jean-Baptiste, et mardi, c'était plutôt le branle-bas de combat dans les locaux par rapport à ça, parce que c'est l'expropriation, une revendication qui est portée depuis vraiment très longtemps par les gens de Saint-Jean-Baptiste et en fait depuis 1989. Ils voulaient que la ville achète la chose quand c'était pas encore détruite pour en faire une espèce de maison du peuple avec parce que le patro, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine c'était un centre communautaire de loisirs mais qui était religieux, c'était un patronage, et donc quand les pères de Saint-Vincent-de-Paul ont voulu vendre ça pour regarnir leur fonds de pension parce qu'ils étaient plus capables de le faire, la ville elle a construit une patente là qui s'appelle le centre Lucien Morne sur le chemin Sainte-Foy pour remplacer ça et voilà. Et nous, on voulait que... Il y avait une coalition, en fait, c'est pas juste nous, c'est le comité populaire Saint-Jean-Baptiste, les coopératives du quartier, différents groupes et tout, qui étaient appuyés par les élus du coin, en fait, qui voulaient que ce soit... que la ville mette la main sur le patron et l'église.
À l'époque où les prêtres ont vendu ça.
Oui, à l'époque où les prêtres ont vendu ça pour faire... ils voulaient un complexe culturel, communautaire et habitation. Dans cette place-là, ils voulaient qu'il y ait toutes ces possibilités-là. Tu sais, t'imagines, il y avait déjà une piscine, il y avait déjà...
comme vraiment trop compliqué pour la ville. Trois choses en même temps.
Non, c'est ça. Sauf que le nouveau parti qui avait été élu à ce moment-là, qui s'appelait le Rassemblement populaire, avait un maire libéral qui s'appelait Jean-Paul Lallier, qui a décidé, lui... d'aller de l'avant parce que quelque chose de bien bizarre qui s'est passé à cette époque-là, il y a un petit clin qui est arrivé, puis il a dit il voulait faire un hôtel d'une marque connue, non j'oublie le nom, c'est con, mais il voulait faire un pas un Holiday
un Hilton.
Non, non, le Hilton il existe déjà. En tout cas, il voulait faire un gros hôtel, une affaire, une compagnie américaine, puis lui, il y avait un projet puis tout. Mais en fait, c'est un projet bidon, il avait pas parlé à la chaîne aux États-Unis, il voulait faire venir ça là. Puis ils ont préféré finalement le Mirage du gros hôtel.
Oh
boy. Au projet citoyen. Ça leur a coûté cher en fait parce qu'il y a deux membres de leur exécutif qui se sont retirés, les élus de Saint-Roch et Saint-Jean-Baptiste qui eux étaient vraiment pas d'accord, ils appuyaient les gens. Donc, c'est là que Régent Lemoine est devenu un conseiller municipal indépendant. Et c'est là que Winnie Fromm a décidé qu'elle ne se représenterait plus pour eux autres. Et en fait, il y a les conseillers aussi de Limoilou à cette époque-là qui avaient dit non, ça n'a pas de bon sens.
Donc ça avait fait même à l'époque, là, en 89.
Oui, ça avait fait jaser beaucoup, beaucoup. Et finalement, bon, bref, c'est ça. Ça a été vendu après un certain temps. Et puis, bon, depuis ce temps-là, il y a comme une espèce de... Il y a toute une question autour de ça. Et puis là, ben là, on avait relancé... À l'époque, on avait eu une grosse bataille, puis on l'avait perdu, puis c'était bien décevant. Et on avait relancé les choses, en fait, quand Jacques Robitaille s'est amené, ça fait plusieurs années qu'il est propriétaire de ça, ça a été une compagnie à numéro pendant un certain temps. Et puis là, il a construit son hôtel, l'espèce d'horreur là sur qui donne sur la place Diouville, là, le
couloir de vent.
Oui, le couloir de vent, mais l'hôtel en question, il s'appelle, j'ai un blanc, c'est
con. L'hôtel
Pur. Non, c'est en Basseville. C'est ce qui est propriétaire du classique, qui est propriétaire de différentes affaires, mais en tout cas, bon, bref, il y a un hôtel là, le Palace Royal.
Ouais, c'est ça, j'avais Royal en
le Palace Royal, et c'est une espèce d'horreur, en tout cas. Puis là, après un certain temps, il a décidé qu'il voulait construire de quoi, et il a lancé des ballons d'essai en janvier. Non, il y a eu des esquisses qui ont été publiées dans Le Soleil. Puis là, il y avait toute la saga avec les ministères, les affaires culturelles sur la façade. La façade, nous, ça nous indiffère un petit peu, mais bon, c'est un moyen intéressant, là, dans le jeu. Autant qu'il y a la façade, on peut l'empêcher de faire ses affaires. Et donc, c'est ça, il y a eu plein de mobilisations autour de ça cet hiver, et en avril, il y a eu un forum citoyen. Puis nous, on se disait, faut que la ville exproprie, mais bon, l'expropriation, c'est un terme qui est quand même assez raide, puis qui passe pas.
Radical.
Quand on s'était dit, nous, ce qu'on va dire, c'est qu'on veut qu'il y ait un maximum de logements sociaux sur place, une centaine d'unités, une place publique. Puis ben pour faire ça, il faudrait donc que la ville prenne possession des lieux. Donc la seule manière de le faire, c'est d'exproprier.
Mais non,
et on est arrivé au forum citoyen, et le forum citoyen est arrivé sur l'expropriation, et la conseillère indépendante de Montcalm, Mme Anne Guérette, est arrivée en disant, voilà, dans le cadre du PPU, c'est une bonne idée. La ville peut exproprier, elle doit le faire. Puis là, elle a commencé à faire du travail autour de tout ça.
Ça fait pas longtemps, ça.
C'est en avril.
Donc, c'est Anne Guérette la première, là.
Oui, c'est Anne Guérette la première. Et le RMQ, à l'époque, là, lui, eux autres, ils disaient, c'est complètement utopique, oubliez ça, là. Je veux dire, il n'y a rien à faire avec ça. Et donc, voilà.
Anne Guérette ou l'expropriation?
Les deux. Parce qu'Anne Guérette était au RMQ avant de se présenter comme indépendante. C'est pas souvent, là.
Une école, c'est une formation. Un diplôme du RMQ.
Oui, non, mais elle n'a jamais été élue du RMQ, mais elle a milité au sein du RMQ jusqu'à temps qu'ils disent qu'elle pourrait plus défendre ses dossiers comme elle voulait si elle était élue pour le RMQ. Il fallait qu'elle ait la ligne du parti, puis elle a fait entre la ligne du parti et la défense des intérêts du quartier, je pense que je vais prendre les intérêts du quartier. Il y en a encore des comme ça, des fois.
Oh.
Donc, on les cherche, là, mais ils existent.
Ils existent. Et donc, voilà, et puis après ça, il y a Mme Anne Gilbert. C'est-tu Anne, son nom? Non, c'est Chantal Gilbert. Chantal Gilbert, ça, c'est la candidate d'Équipe La Baume. Elle, c'est une madame qui est... c'est une artiste, en fait, de calibre international, qui a son atelier dans Saint-Roch et qui a décidé de se présenter dans le district des Faubourgs qui couvre Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste. Et puis, ben, c'est ça, elle est venue nous voir. Elle est venue voir le comité populaire. Elle est allée voir l'association des gens d'affaires. Elle est allée voir plein de monde pour voir de Cossé qui pouvait nous intéresser, puis qu'est-ce qu'elle pourrait nous promettre pour qu'on vote pour elle. ce qui risque peu d'arriver, mais quand même. Et dans ces discussions, on a présenté cette question du patro-là, qui pour elle était comme bizarre. La seule affaire qui l'inquiétait là-dedans, c'est qu'elle s'intéresse beaucoup à la qualité esthétique de la ville. Et considérant l'hôtel Palace Royal, elle a peur que finalement, si Jacques Robitaille construit un autre hôtel là, la qualité esthétique. Ouais, c'est ça.
Fait que la seule chose qui est importante pour elle, c'est que ce soit beau.
Ben, c'est pas la seule chose, mais c'était la chose qui, a priori, il faisait comme non, on n'en veut pas d'autres Palace Royal. Okay. Puis là, elle en a parlé à l'interne du parti, puis semble-t-il, elle disait ah, vous allez voir, il va y avoir des choses, puis tout. Et semble-t-il que elle et l'autre madame qui se présente contre Anne Guérette dans mon camp, dans leur porte-à-porte, la majorité des gens leur disent faut faire de quoi avec cette affaire-là. Et ils sont sortis. Pour revendiquer. Ils sont sortis mardi en disant qu'il faudrait que la ville exproprie pour faire de l'habitation. Là.
Alors, quand ils sont sortis, avait-il leur nez de clown?
Non. Il y a une superbe photo dans le. C'est génial. Je ne sais pas si vous avez vu le soleil de mercredi. Oh. D'abord tasser le proprio avec leur photo en dessous. C'est comme quand même hot. Là.
Ça, c'est de la récupération. On appelle ça de la récupération.
Oui, mais en même temps, c'est bien parce que ça permet de faire du millage avec ça. Parce que là, si. Rendez-vous compte, là, si des candidats de l'équipe La Bombe disent qu'il faudrait exproprier, c'est donc que c'est rendu une option légitime. Mm-hmm. Et ben c'est hâte, là, c'est rendu que c'est Jacques Jolicoeur du RMQ qui dit « Ben là, on n'est pas pour exproprier un promoteur pour le donner à un autre promoteur, voyons donc. » En tout cas, bref, il y a des choses qui se passent dans cette campagne électorale-là qu'on n'aurait pas pu penser. C'est quand même assez particulier. Et donc, il va y avoir du mélange qui va être fait là-dessus. Et pour être bien sûr et certain que ça passe pas juste comme un flac, c'est-à-dire que ce soit juste que ce soit un couac dans l'actualité, un pétard mouillé, le comité populaire organise une grande marche dans Saint-Jean-Baptiste le 24 octobre qui va se terminer au patron. Donc, samedi le 24 octobre, il y a un rendez-vous à 13h sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste. Et puis, ben c'est ça. Si vous voulez en savoir un peu plus là sur les enjeux en Hauteville, il y a l'équipe du Compop, le comité populaire publie une affaire qui s'appelle l'Infobourg, c'est un journal de quartier, qui bientôt va être sur Internet, mais que pour l'instant, l'édition elle vient juste d'arriver et va arriver dans les portes, dans les boîtes à mal, en fait, des gens de Saint-Jean-Baptiste, là. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et va être dans les commerces en fin de semaine, puis probablement sur Internet, genre au milieu de la semaine ou lundi prochain. Et dans l'Infobourg, ben, justement, il y a un dossier électoral. Et entre autres, il y a des entrevues avec les candidats verts, La Bombe et RMQ de Saint-Jean-Baptiste. Il y a toute une explication autour du patro puis de qu'est-ce qui devrait se faire dans Saint-Jean-Baptiste et comment est-ce qu'on pourrait essayer de profiter de ces tentatives de récupération-là pour réussir à gagner des choses concrètes. Et j'aimerais attirer votre attention sur une chose en particulier qui a été faite. Et c'est quand même hot, là. On parle d'un petit journal de quartier qui est diffusé à 7000 copies là, dans Saint-Jean-Baptiste et tout. C'est tous des journalistes bénévoles, c'est tout. Et il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de commander les états financiers du Parti Équipe La Bombe et du RMQ pour faire une comparaison. Et il a fait un Google sur tous les noms des personnes qui ont donné plus que 100$. Et ça donne le portrait du financement électoral de l'équipe La Bombe. Alors, c'est un petit bijou. Alors, voilà, en 2008, parce que c'est les états financiers de 2008, évidemment, les états financiers de 2009 ne sont pas disponibles, on se rend compte qu'il y a plusieurs groupes d'intérêt qui ont contribué généreusement à la caisse de l'équipe La Bombe. Alors, voilà. D'abord, il y a certaines compagnies qui se dégagent du lot. Évidemment, les compagnies n'ont pas le droit de contribuer à des partis, sauf que quand tu regardes puis que tu vois quelqu'un qui est dirigeant d'une compagnie, que sa femme et ses enfants aussi ont contribué et que tu sais que t'as toute une série de personnes qui en fait leur seul lien ensemble c'est d'être membre du même conseil d'administration, d'être des hauts dirigeants, tu dis bon ben voilà, tu sais, c'est clair que c'est la compagnie en fait qui a donné. Et par exemple, il y a la firme BPR, un bureau d'ingénieurs conseil, qui est mêlé au cours des deux dernières années à plusieurs affaires de trafic d'influence dans le monde municipal. Donc c'est eux les compteurs d'eau à Montréal. Donc,
okay. Ils savent comment faire de l'argent.
Oui, il y a une demi-douzaine de leurs cadres et de leurs conjoints et conjointes qui sont domiciliés à Québec qui ont versé 7 500 $ à l'équipe La Bombe en 2008. Okay. Donc c'est quand même un petit groupe là.
L'argent qui vient de Montréal.
Oui. Et puis là, c'est des cadres domiciliés à Québec là.
Oui, mais là.
Il faut être domicilié à Québec pour donner de l'argent.
On est volé à Montréal.
Il y a un maximum de dons par personne.
1000.
Mais là, ils sont plusieurs, donc ça fait. Ouais,
c'est
ça.
Okay. Mais c'est pas juste ça aussi.
L'enfant de 12 ans.
Je pense qu'il faut être majeur, okay. Par exemple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un partenaire de BPR qui s'appelle la firme Dessau, qui travaille avec eux main dans la main, qui eux aussi ont mis la main à la poche pour contribuer au parti. Ils ont fourni 4 500 $ en 2008. Donc, il y a un groupe d'hommes d'affaires aussi, ceux qui sont derrière le projet du Colisée. On se disait, mais c'est qui ces gens-là, puis tout. Puis en fouillant un petit peu, on s'est rendu compte qu'il y en avait, qu'à 4, il avait donné 3 000 $. Et puis évidemment, il faut savoir là, que le maximum autorisé, c'est 1 000 $, comme je le disais. Il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres groupes qui ont des intérêts particuliers, qui ont donné des sous. Par exemple, il y a le lobbyiste Jean Lemay, qui travaille pour le consortium formé par l'homme d'affaires Tony Arcuzo et le Fonds de solidarité de la FTQ pour permettre l'agrandissement de Place Québec. Alors, il y a la vice-présidente du groupe La Capitale, qui va doubler la superficie de son siège social derrière le complexe G. Il y a finalement Jean Baillargeon, qui présidait les consultations publiques sur l'avenir du manège militaire. Chacun ont versé à la caisse électorale de l'équipe La Bombe, tout comme plusieurs firmes d'architectes de construction et d'ingénierie de la ville de Québec. Alors, on voit qu'il y a vraiment du changement dans l'air. Il y a des choses qui se passent. Et il faut savoir aussi que l'équipe La Bombe, ils ne ramassent pas des pinottes quand ils s'y mettent. Ils ont organisé un cocktail dans un local du port de Québec en 2008, lors duquel ils ont ramassé 50 000 $. C'est quand même pas rien, là. Mm-hmm. Ça dépasse légèrement les activités bénéfices du collectif Anarchiste la Nuit qui fait l'émission Voix de Fête.
À peine.
Et voilà, c'est quand même, c'est vraiment à côté de ça, là, le RMQ puis le Défi Vert font vraiment figure de parents pauvres, là. Jusqu'à temps qu'ils reviennent proche du pouvoir. Parce que le RMQ, quand même, en 2008, a ramassé 76 430 $ en contribution. C'est quand même pas rien, là. Avec 75 000 $, il y a moyen de faire des affaires, tu sais. Par contre, en 2008, ce qu'il faut savoir... Ah oui, ben, juste pour dire, là, par contre, ce qui arrive avec le RMQ, contrairement à l'équipe La Bombe, les donateurs, c'est des personnes qui sont élues du parti ou proches du parti. C'est beaucoup des politiques. Avant, c'était beaucoup des hommes d'affaires, des hôteliers, des architectes et tout ça, mais là, depuis qu'ils n'ont plus aucune chance d'être au pouvoir dans un avenir rapproché, tous ces gens-là sont partis. Donc, aujourd'hui, on voit des noms comme Anne Bourgette, l'ancienne chef du RMQ, Agnès Maltais, la députée péquiste, Jean Monti, le restaurateur ou le propriétaire immobilier, Bertin Vachon. Bref, il juste comme, et quelques syndicalistes et autres personnes, tu sais, il reste juste comme la garde rapprochée. Remarque, 75 000 $, la garde rapprochée, c'est quand même pas si mal. Et dernière affaire, là, ça c'est vraiment hot, tu sais, le défi vert, le parti montant, là, la bébête verte qui monte. En 2008,
si que ça, c'est un nouveau parti quand même, ça fait 2 ans qu'il existe.
En 2008, ils ont ramassé 517 $.
Yeah. Et je pense que cette année, on peut les battre.
J'en ai entendu parler en entrevue, Yannel Bonaventure, il disait qu'il y avait un budget d'environ 600 $.
Ouais, c'est vraiment pas grand chose. Ils ont dépensé 3 000 $ sur leur site web, puis ils sont fait fourrer. Ils ont été obligés d'en refaire un autre.
C'est incroyable, ça.
C'était leur plus grosse dépense électorale. Ils ont trouvé le moyen d'embaucher la mauvaise compagnie. Enfin, bon, 517 $ qui ont été récoltés grâce aux dons de 3 personnes, le chef Richard Dom, non, de 2 personnes, le chef Richard Dom et le président François Bédard.
Oh boy!
Donc, voilà. Mais okay. J'imagine qu'en 2009 est une année électorale, devrait réussir à ramasser plus que ça. Mais bon, c'est des choses que vous pouvez trouver. Et j'espère, je fais un... Je croise les doigts. J'espère que quelqu'un, quelque part, va avoir la bonne idée dans un grand média qui a plus que 7000 exemplaires de faire le même exercice, parce que c'est quand même pas grand-chose, tu sais, de dire... C'est pas compliqué, là. T'appelles au greffe de la ville, tu dis « Bonjour, moi, je voudrais avoir copie des états financiers des partis. » C'est des documents qui sont publics. Au provincial, ils sont sur le site web du directeur général des élections. C'est peut-être un peu plus facile. Au municipal, non, ils sont pas sur le site web. Sauf que si leur demande, ils sont obligés de te le donner. La seule affaire, c'est que tu vas payer photocopie. Donc, ça nous a coûté 5 et 17 pour obtenir
vous
ces renseignements-là.
Oui,
mais quand même, c'est intéressant. Donc, c'est dans les faubourgs qui vient de sortir.
Pour le 5 et 17.
Non, c'est quand même, on est capable de le payer à même nos budgets.
Ça, si, donc, mettons, je vais l'avoir, l'infobourg, je vais où, là?
Ben, l'infobourg, on peut le trouver à la station. Dès vendredi, on va commencer à le trouver dans les commerces de Saint-Jean-Baptiste. La plupart des gens qui vivent dans Saint-Jean-Baptiste et dont la porte est pas barrée vont le recevoir dans leur boîte à mal. Ce qu'il faut savoir, hein, les grands immeubles, les coopératives, que la porte est barrée, ben, évidemment, le camelot, il peut pas ouvrir.
Ça prend la clé de facteur.
Ouais, c'est ça, puis on n'a pas de clé de facteur. Donc, voilà. Puis sinon, on va pouvoir le trouver sur le site web du Comité populaire d'ici quelques jours. Donc, c'est le www.compop.net. Donc, voilà pour ça. Est-ce que je suis mieux de continuer avec les 2-3 autres choses que j'ai à dire, ou bien non, de faire une pause musicale et de les dire après?
Continue, il reste pas bien même temps.
Il reste pas beaucoup de temps. Écoutez, la politique municipale, des fois, on a l'impression, là, tu sais, que c'est soit la politique locale, on a l'impression que c'est soit genre les groupes communautaires. qui brasse un peu de... C'est ça. qui, on a l'impression que c'est soit les groupes communautaires qui font du réformisme local, comme le Comité populaire. Ça donne des bons résultats, c'est intéressant. Des coopératives d'habitation, un petit journal, si c'est ça. Ou les partis. C'est un ou l'autre. Ou ben non, des fois, t'as des anarchistes qui posent des affiches irrévérencieuses sur des poteaux. Mais il y a quand même des gens qui ont essayé d'autres choses à d'autres moments. Et puis, mardi prochain, le 20 octobre, dans le cadre des Mardis de l'Anarchie, je vais avoir le plaisir de présenter sur un groupe qui a fait d'autres choses dans la vie. En fait, c'est le Black Panther Party, qui était le Parti des Panthères Noires, qui était un groupe de révolutionnaires afro-américains. Un groupe qui faisait essentiellement du travail communautaire dans les quartiers, faisait un travail d'autodéfense face à la police, c'est-à-dire qu'ils informaient les gens de leurs droits, mais ils se promenaient aussi, il y avait aussi des patrouilles armées j'ai juste le terme anglais, pas monitorer,
pour surveiller
la police et éviter les exactions. Ils se disaient que s'ils surveillaient à bonne distance les activités policières, il y aurait moins de problèmes. Et effectivement, pendant un temps, il y a eu moins de problèmes. Mais ils organisaient aussi des petits déjeuners pour les enfants et tout. Puis bon, bref, ça a été un mouvement qui était très important et qui a été, à un certain moment, qualifié de menace numéro un à la sécurité intérieure des États-Unis par M. J. Edgar Hoover, qui était le chef du FBI. Je pense que c'est le PDG, je sais pas trop.
Ouais, un individu assez sinistre.
Un individu assez sinistre. Et donc, voilà. Et ça, c'est à la fin des années 60. C'est quelque chose que dont les radicaux parlent souvent. Il y a des livres qui ont été faits là-dessus. Il y a même un livre récemment qui a été édité par une maison d'édition française et qu'on a pu trouver pendant un certain temps, La Page Noire. Très intéressant bouquin sur les Black Panthers, en français d'ailleurs. Mais on n'a pas pu souvent les voir. Et en 1960, dans la fin des années 60, il y avait quand même des collectifs de vidéo militants, des collectifs de cinéastes militants, pardon, c'était pas de la vidéo à l'époque. Il y avait un groupe qui s'appelait Newsreel, qui était une espèce de fédération de collectifs de cinéastes militants. Et eux, ils faisaient des films, puis ils pensaient que le film devait servir finalement à faire de la politique. Ils faisaient des films, puis ils en faisaient des copies, puis ils distribuaient sur les campus, dans les groupes militants et tout. Ils faisaient deux choses. Soit ils faisaient les films que eux, ça leur tentait de faire, genre une espèce de documentaire, ou ben non, ils s'associaient à des organisations, puis ils faisaient des films pour eux. Et ils ont fait trois films sur le Black Panther Party. Il y en a un que c'était eux qui avaient fait, puis deux que c'était en collaboration avec les Panthères, et même un qui avait été fait, en fait, pour faire un travail d'éducation politique dans les ghettos. Et ces films-là, c'est des petits films qui durent une quinzaine de minutes chaque.
C'est des courts-métrages.
C'est des courts-métrages, parce que, bon, ça coûte cher à faire un film à cette époque-là, sans doute.
C'est en couleur?
C'est en noir et blanc, je crois. Et j'ai un blanc, là, je me souviens plus. J'étais surtout frappé par les accents. Mais bon, bref, je vais les projeter. Mardi, le 20 octobre, à 19h, au Café Bar La Jetée, 251 Dorchester. Alors, ça va être 19h, 19h15. Il va y avoir une courte présentation historique en français sur ce qu'ont été les Black Panthers. Il va y avoir projection des films. Malheureusement, ils sont en anglais. Et, tu sais, quand on écoute des films québécois des années 60, surtout là, des documentaires sur les quartiers populaires, des fois, on est impressionné par les accents très marqués. Bon, ben, c'est la même chose sur les documentaires des années 60 avec les ghettos noirs.
Ouais, mais au moins, c'est aux États-Unis.
Les gens ont des accents.
En Angleterre,
oui, c'est pas du cockney, une chance. Mais quand même, c'est vraiment, on s'habitue. Et c'est vraiment quelque chose de voir les manifestations de ces gens-là, de voir les entrevues avec ces groupes-là, de voir que c'était radical, mais c'était plein de bon sens. Et c'est une perspective différente, en fait, sur ce que peut être l'action communautaire, l'action politique au niveau local, au niveau municipal. Alors voilà, c'est une invitation. Je vais présenter ça. Sinon, ben, que vous dire d'autre que j'aurais eu plein de choses à dire finalement, puis j'ai pas été capable
de
me restreindre. C'est des choses qui arrivent. Nous, on a quand même de la musique avant de s'en aller, puisque là, on a quasiment fait ça en deux micros, cette émission-là.
Ou deux micros pas et faire. Une entrevue.
À ne pas faire. Non, c'est, ben non,
non
c'est
même
ça.
Pas. Un micro et
une
entrevue.
Un micro et une entrevue.
Oh,
ah oui, puis oui, ben il faut que je vous dise, là, avant d'aller en musique, là, la nuit des sans-abri, là, c'est pas une blague, c'est vendredi le 16 octobre. Ça risque d'être dans Saint-Roch, comme d'habitude, à Place Saint-Roch, là, en face du soleil, là, proche du parc à 10 millions. Tu sais, où est-ce qu'il y a les autobus? Enfin, bon, Charest de la Couronne. C'est toujours là d'habitude. J'imagine que ça va être encore là cette année. C'était pas disponible sur le site web. Si vous voulez plus d'informations, c'est le 522-6189. Ça vaut la peine d'aller faire un tour. Et sinon, ben, le lendemain, c'est la journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre, sur le thème Une ville sans pauvreté. Moi, j'y crois. Cette année, ça va être à Place Douville de 11h30 à 13h. Et évidemment, mardi prochain, 19h, les projections des films des années 60 sur les Black Panthers, début des années 70. C'est un rendez-vous, ça risque d'être intéressant. Puis ben, entre-temps, vous pouvez vous promener sur Internet, sur notre blog, Voix de fait avec un X et un S.blogspot.com. C'était Nicolas avec...
François!
Exceptionnellement. Et...
Farruko.
On s'en va musique avec... Grippe.
Oui, Ragasonic.
Ragasonic.
Avec un petit topo. Là.
Sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec.
Moi, ce que j'aime pas, c'est les artistes qui nous prennent en otage, que ce soit à la télévision, que ce soit dans les salles de spectacle, puis qui, entre deux tonnes, vont se mettre à délirer sur la politique. Ça va être donc ben pas vivre. Maudite gang de colons, de gigondes, de QI, 12 de QI.
Vous en avez assez de la vermine populiste? Écoute, voix de fête, tabarnak!
Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet endroit, peau qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Wow, ton noir est blanc, ton costume bleu, et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Wow, on dit tout haut, ce que les jeunes des ghettos pensent tout bas. C'est vrai, certains me diront que c'est une banalité. Mais en attendant, beaucoup de nymphas se font tuer. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Si je vois un facho devant moi, obligé, faut qu'il bouge. Je me sers de mon micro comme je me servirais d'un Uzi pour éliminer le FN, le PN et tous les fachos à Paris. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet drapeau qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne...